pour avoir ces niveaux de violence et pratiquer les tirs tendus tels qu'ils ont été pratiqués. C'est tout l'enjeu de ce type de procès, quoi. C'est qu'est-ce qui restera dans l'histoire ? Quand on entend la préfète Dubé, elle se réinvente l'histoire. Elle se déculpabilise dans le récit tel qu'elle se le structure. Peut-être qu'elle a besoin de ça pour pouvoir se regarder encore dans la glace. C'est un combat au long cours. En effet, on ne les lâchera pas jusqu'à la fin, et on ne lâchera pas en fait jusqu'à ce que justice soit rendue. Et je crois que le moment le plus comique, c'est quand l'avocat de la partie civile a parlé de Madame Le Guay. En parlant de Madame Dubé, hein. Alors, peut-être qu'on a été mariés à l'insu de notre plein gré durant cette audience.
C'est pour ça qu'elle tripotait son alliance.
Ah oui, peut-être. Oh là là, comme vous y allez.
Monsieur Le Guay, vous avez été qualifié de diffamateur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté les dents serrées? Est-ce que c'était la stratégie du silence?
En effet, face à cette cour, c'est pas mal lié au verdict que j'ai subi la semaine dernière.
6 mois de bracelet électronique et 20 000 euros d'amende.
C'est ça. Pour des dégradations commises lors de Sainte-Soline 1 et lors de la grillade partie un mois avant. Bah, peut-être que je me dis que ces déclarations préalables qu'on fait en amont, c'est un peu notre stratégie jusqu'à maintenant, où on y va vraiment avec tout le cœur, on y va vraiment dire pourquoi politiquement on se bat, quels sont nos comportements sur ces temps-là, etc. Finalement, ça donne un peu l'impression de pisser dans un violon, donc est-ce qu'on ne se fait pas l'économie de ça? Comme l'a dit mon avocat, c'est pas une marque de mépris ou de défiance vis-à-vis, je les connais pas ces juges-là, je vais pas les qualifier d'agents couchés devant le gouvernement, etc. Je leur prête pas de mauvaises intentions, mais en tout cas... C'est un droit, il peut être utile de le faire valoir, d'autant que...
Donc t'as serré les dents en silence.
Ouais, j'ai juste décliné mon identité et mes conditions de revenus, puisque ça doit être pris en compte dans la peine qui serait infligée. Et donc si on doit résumer un petit peu voilà, le score à la fin, la partie civile demande réparation, il réclame 8000 euros. Je suis pas sûr que Madame Dubé ait vraiment besoin de ça, hein, je veux bien lui payer 2-3 séances de psy, hein, mais 8000 euros, enfin, c'est indécent. Elle demande également 5000 euros de remboursement de frais d'avocat. Et finalement, le fait qu'il y ait des demandes qui soient aussi fortes, ça vient confirmer ce qu'on théorise de plus en plus. Ça rentre pleinement dans le champ de la procédure Bayon. C'est dans l'espoir que le simple fait qu'on puisse être menacé de telles peines, bah, ça nous décourage de toute action militante, de toute expression politique. Et donc c'est un piège dans lequel il ne faut évidemment pas tomber. Et donc le PROC a appuyé la demande de la partie civile de Dubé en demandant ma condamnation, en demandant au juge de considérer quelle serait la bonne somme à m'allouer.
Quelle bonne somme peut-on allouer à un type qui est au RSA? Tu es insolvable en gros. Hein.
Ben oui, je suis insolvable, j'ai plus d'activité professionnelle depuis 4 ans à présent. Ben, en fait, même un euro symbolique, ça dit la culpabilité, c'est pas une bonne décision. C'est l'enjeu de ce procès, c'est la liberté d'expression. Si on avait pu faire un débat sur est-ce que le terme d'assassin était vraiment le bon terme, ben j'en sais rien, mais en tout cas ça aurait vraiment permis d'avoir des vraies discussions. Parce que le terme d'assassin, pour moi, ça représente quelqu'un qui est envoyé en service recommandé, quoi. C'est un tueur sur commande. Et ça peut être entendu autrement. Ça peut être entendu simplement quelqu'un qui tue avec l'intentionnalité. Sur la question de l'intentionnalité, ben, va falloir refouiller les archives. Mais après Notre-Dame-des-Landes, il y a bien eu des voix qui se sont déliées dans les rangs des forces de l'ordre, dans les rangs des préfets, etc., qui disaient que sur un coup comme Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement était prêt à assumer 1 à 4 morts. Tu vois ? Et avait les stratégies de communication. Tu vois, s'il y avait des vraies investigations, j'aimerais bien avoir les brouillons du service com de la préfecture avant Sainte-Soline. Et je suis à peu près persuadé qu'il y avait un scénar et un communiqué de presse qui était rédigé dans l'optique où il y aurait eu un mort. Et que je sois très suspicieux vis-à-vis de représentants de l'État et sur leur capacité à tuer des militants écolos, ben désolé mais pas désolé, hein. L'État français l'a déjà fait. Faut pas oublier Vidal Michalon, tué sur une manif dans les années 70, Cresmalville, par rapport à la lutte antinucléaire. Faut pas oublier le camarade qui a été tué lors de l'affaire du Rainbow Warrior. Et puis il ne faut pas oublier Rémi Fraisse, pas oublier non plus oublier toutes les victimes des violences policières, les Naël, tous les camarades dans les cités, les camarades en Kanaki, qui ont eux aussi à subir des opérations où l'issue peut être la mort.
C'est presque miraculeux qu'il n'y ait pas eu de mort le 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Pendant des semaines, Serge a été entre la vie et la mort et Mika n'est pas passé loin non plus.
C'est ça l'élément numéro un qui, moi, fait que le... Bon, je trouve pas que le terme soit exagéré, C'est qu'à le jour où je donne ces propos-là, en effet, Mika et Serge sont entre la vie et la mort. L'histoire et la volonté des camarades, le fait qu'on ait un service public hospitalier français qui soit encore performant et qui soit encore accessible à tous et à toutes, toute la volonté de faire de Serge et de Mika et de leurs proches qui les ont accompagnés, qui les aident à se reconstruire et tout, font qu'il n'y a pas eu une issue fatale. Mais c'est certainement pas grâce à la préfète Dubé. C'est peut-être ce qui m'a scandalisé le plus quand elle a commencé à aller sur le laïus du « on a tout fait pour organiser les secours ». Alors que rendez-vous compte, ils nous avaient même pas dit où ils faisaient la manif. Ça c'est bizarre, hein. Ils savent pas où mettre les secours, mais ils savent où mettre les condés.
Bon, bah alors c'est qu'on ne se quitte plus hein, quand même, hein, puisque si je reprends l'agenda, il y avait 3 décembre 2025, mars 2026, aujourd'hui mai 2026. On se revoit la semaine prochaine donc à Poitiers pour le 27.
Absolument, pour le procès de l'organisation de Sainte-Soline 2, qui va pas être une paille ni une mince affaire. Hein. On avait pris assez cher en première instance. Et c'est la même juge qui va nous juger que celle qui m'a mis le bracelet la semaine dernière. Donc on n'y va pas la fleur au fusil, quoi. Par contre, on va avoir de sacrés témoins, puisque sur le plan politique et sur un petit peu justement de ce bras de fer avec le gouvernement, avec Darmanin et compagnie, il y aura Benoît Biteau.
Député de Charente.
De Charente-Maritime et eurodéputé au moment de Sainte-Soline. Il y aura Nicolas Selnik, qui est un des rédacteurs, et là c'est vraiment sur le fond du dossier Bassine et de cette lutte contre l'accaparement de l'eau. Nicolas fait partie des deux journalistes qui ont rédigé ce super bouquin qui s'appelle Les Assoiffeurs, qui vient analyser justement toutes les grandes stratégies d'accaparement de l'eau en France et à l'international. Et puis enfin, on aura l'occasion d'entendre Michel Forst, commissaire à l'ONU, en charge de la protection et des défenseurs de l'environnement. Bah, j'espère que face à un tel casting et face à de tels poids lourds, la juge de Poitiers va se rendre compte qu'elle a une décision importante à prendre, une décision historique. Et si elle veut rester du bon côté de l'histoire, bah, il faudra que ce soit dans le sens de la relaxe.
Bah écoute, je vais juste parler en mon nom, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront dans ce que je vais te dire. Merci à Bassine Non-Merci, et notamment merci à toi qui est l'un des co-porte-parole de Bassine Non-Merci, et absolument pas le leader ni le chef, hein, n'est-ce pas? Je crois qu'on a déjà parlé de ça.
Ouais, mais tu sais quoi, la pédagogie, c'est l'art de la répétition.
La pédagogie est l'art de la répétition. Merci, parce que dans ces moments-là, je me dis que c'est moi qui pourrais être à ta place, ou n'importe qui d'autre, ou les 30 000 personnes qui étaient à Sainte-Soline, en fait, auraient dû être à ta place dans ce tribunal aujourd'hui. Merci pour ce taf et cet engagement.
Et moi, le remerciement, évidemment, que je le retourne à tous ces camarades qui ont pour certains fait beaucoup de route pour être là aujourd'hui. Je l'adresse également aux avocats, qui ne sont pas des avocats comme les autres. Hein. Ce n'est pas l'argent qui les motive à nous soutenir, à nous défendre dans ce type d'affaires. Le remerciement à toutes les équipes, les Legal Team, qui font un boulot de l'ombre acharné et d'une efficacité remarquable. Puis ben, merci aux journalistes qui font que cette sombre histoire de Sainte-Soline ne tombe pas dans les oubliettes de l'histoire.
Bon, bah, à la semaine prochaine alors.
À la semaine prochaine alors.
Et voilà les amis, c'en est donc fini pour cette étape parisienne du marathon judiciaire de Julien Le Guay de Bassine Non-Merci. On se retrouve donc à nouveau devant le tribunal de Poitiers au prochain épisode de cette émission. Reportage à télécharger via notre site polemixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très vite sur votre radio encore libre préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. No basaran. Salut.
C'est sur le
99.1.
Le mix.
Kumikata Station, c'est votre émission reggae un mardi sur deux de 18h à 20h.
Sur la radio HDR.
Deux heures de reggae sur vinyle, des infos du mouvement Sound System, des invités.
C'est Kumikata Station.
Animé par Liviti. Un mardi sur deux sur le 99.fm. En live sur le Facebook de la radio HDR. Page Facebook Kumikata Station. Alors n'oubliez pas, un mardi sur deux, c'est Kumikata Station. De 18h à 20h. Ce mix des cultures.
Kumikata Station.
Préparez-vous à plonger dans l'époque dorée du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem, de Chicago à Paris.
Les années de jazz.
L'émission présentée par Michel Jules vous emmènera dans un tourbillon musical où le passé rencontre le présent.
Chaque samedi, de 18h à 19h sur Radio HDR.
Laissez-vous porter à travers les décennies pour un voyage sonore unique. Venez découvrir les anecdotes, les mélodies, les rythmes, les chefs-d'œuvre et les...
Acheter 20h du soir.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Hard Time Machine. Mathieu Morand avec vous pour un voyage musical à travers le temps. Et une nouvelle émission de Hard Time Machine. Vous le savez, cette saison, si vous me suivez, je tente de passer en revue l'ensemble des sous-genres qui composent le métal. Aujourd'hui, un sous-genre particulièrement passionnant, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le métal néoclassique. Et bien sûr, le précurseur, celui qui porte sur ses épaules ce mouvement, c'est Yngwie Malmsteen.
Thank you.
entendu donc une influence particulière de la musique classique qui va du baroque au romantique avec donc des progressions d'accords, des arpèges, des choses très virtuoses qu'on retrouve bien entendu dans l'univers de la musique classique. C'était How Many Miles to Babylon sur l'album de 1992 Fire and Ice, Yngwie Malmsteen. On continue avec un autre groupe de métal néoclassique, il s'appelle Advance.
In the dark there's a light, taking my fears and my dreams out of sight. Give me the power and the will to survive this fight. I've traveled for ages in search of the truth. Thousands of pages and paid all the dues. But they can tell what I am longing for. There's a fire that burns, I won't hesitate, I'll always return, surrendering all of the duties that I was chosen for. I've conquered it all, and so what is the price? I'm back for deliverance now that I'm wise. Why don't you ease my pain and free my soul?
Alors bien entendu, hein, la ligne est très fine hein, entre le power metal et le néoclassique, comme on l'entend ici chez les Allemands de Advance, mais on retrouve bien certaines caractéristiques, notamment l'utilisation de la gamme mineure harmonique et puis ces arpeggios hein, qui font le thème de cette chanson. Et il y en a qui ont tout compris hein, au niveau du mariage entre le classique et le métal. Pour faire du néoclassique, ce sont les Américains de Symphony X. Je vous propose cette suite épique qui est inspirée de l'Odyssée d'Homère.
Journey has begun. When our eyes meet once more, there will be peace. The taste of your lips, the warmth of your touch, hugging forever two souls as one. Thank you.
dream come true. Seasons of sorrow have stolen.